peu ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, qui pex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République, parce qu'on sait jamais. Hein.
Ça va tout changer, parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement, et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit. Où,
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.
Bonjour,
bonsoir,
bienvenue à Cour d'honneur, saison 5, épisode 6.
Vous n'entendez pas double, nous sommes non pas deux sœurs jumelles, mais vos boss ladies préférées au micro, soit...
Ellie, j'espère que vous êtes ready à nous écouter en cette semaine glaciale.
En tout cas, nous on est chaud.
Et oui, Swan, malgré les derniers examens,
les prochaines révisions
et les grands reportages qui s'annoncent,
restez avec nous plutôt que de perdre des heures à scroller
ou de ne rien comprendre aux essais de philo,
tout en vous plongeant dans vos mémoires d'étudiants.
On se pose toujours cette même question.
Mais c'est quoi être étudiant à la Sorbonne ?
Et on y répond toujours sur Radio Sorbonne Université.
Votre magazine préféré d'infos et de culture qui fait le tour de la Sorbonne et de ses campus.
C'est un mercredi sur deux sur Radio Sorbonne Université.
Et un samedi sur deux sur Radio Campus Paris.
Pendant une heure, on va...
parler de réseaux sociaux.
Non, moi j'ai jamais travaillé avec eux.
Parler d'une grosse internet avec laquelle je collabore qui s'appelle La Moula Shop.
Moi c'est des vêtements, c'est pas...
De philo.
Que je suis capable d'aimer à nouveau ? Est-ce que je suis capable d'aimer ? Est-ce que je suis capable ? Est-ce que je suis ? Est-ce que je... Est-ce que... Wow, trop de questions.
Et un peu de nostalgie.
Le temps est magnifique. Tous les enfants profitent au maximum du grand air, dans la joie.
Voici nos promesses.
Avec la meilleure des équipes pour vous servir.
Elias, le fameux Elias, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir, merci. Merci à tous d'être là. Aujourd'hui, je vous présente un petit édito sur les réseaux sociaux. Je suis remonté.
On a aussi Mathilde avec nous ce soir.
Bonsoir, aujourd'hui je vous ai enregistré un micro-trottoir pour savoir ce que vous pensez des réseaux sociaux en 2025.
On a hâte d'écouter ça et bonsoir à Lavinia aussi.
Hello les filles, alors avec Jade je vous ai préparé une interview et oui aujourd'hui on a Valérie Bettelheim avec nous dans le studio et je laisse la parole après à Jade si elle veut se joindre à moi.
Et oui, bonjour, donc essoufflée en sueur parce que le bus ne passe plus, mais aujourd'hui je suis prête à interviewer Valérie Bethléem avec donc Lavinia.
Et ensuite bonsoir à Romain,
sa
première.
Et oui.
Bonsoir, je suis très content d'être ici, moi je vais vous parler de comment trouver un stage dans la France de Macron.
Ouh là là, très compliqué ça. Bonsoir à Clara aussi.
Et bonsoir, alors moi je vais mêler un peu les thèmes que tu as annoncés, philo, nostalgie, parce qu'on va faire un retour dans le temps à l'inauguration des archives de la parole qui a eu lieu à la Sorbonne.
Et avec nous ce soir pour notre plus grand plaisir, Alice.
Coucou mon équipe préférée. Alors
le
moi,
retour.
Oui, je suis pas là souvent, c'est vrai, je sèche un peu. Moi je vous ai préparé la chronique Sorbonne en personne, ou plutôt chronique criminelle, mais c'est un jeu de mots, je n'en dirai pas plus, on verra ça plus tard.
On a hâte de comprendre de quoi tu veux parler. On a aussi ce soir Valérie Bettelheim, notre invitée. Bonsoir.
Bonsoir.
Sans oublier le grand Thomas Pesquet, Thomas Ndjol. Et non, j'arrive à Cour de Thomas, c'est encore le fameux et célèbre Thomas Schnell, bonsoir.
Bonsoir à tous, ils sont de plus en plus nombreux dans cette émission, ça devient n'importe quoi.
On est beaucoup trop et on a très chaud, mais restez quand même là, bien chaud justement, avec nous.
Pendant une heure, on tentera de vous faire rire,
sourire,
chanter,
et même pleurer si on est complètement crazy.
Bienvenue dans la cour d'honneur de la Sorbonne. Et pour bien commencer, on se met dans l'ambiance avec la carte blanche, l'édito de Radio Sorbonne.
Faire peur aux bourgeois, eh bien c'est leur seule façon de montrer qu'ils existent.
Là, c'est vraiment facile.
Carte blanche.
Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on est tous connectés, mais à qui ? Entre les stories parfaites, les posts millimétrés et les feeds qui défilent sans fin, les vraies interactions ont disparu. Alors comment réinventer nos échanges et remettre un peu de réel dans tout ce bruit ? Elias a le remède pour la maladie d'Internet.
Les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est comme le crous à 13h. Trop de monde, beaucoup de bruit et pas de saveur. Avant, c'était simple. Une photo floue, un mème nul, trois mots jetés au hasard, et ça suffisait pour lancer une vraie conversation. Pas de filtre, pas de mise en scène, juste toi, tes potes et la vie telle qu'elle était. Aujourd'hui, tout est calculé. Chaque post, chaque réaction, et les stories visées de ton ex ne font pas exception à la règle. On ne partage pas pour échanger, on partage pour exister dans un flux où la perfection semble obligatoire. On scénarise, on retouche, et parfois on se perd soi-même. On scrolle vite, on like sans réfléchir, on commente par habitude. À la fin, on a vu des centaines de vies sans en toucher une seule. Les algorithmes aiment ça. Plus ça choque, plus ça divise, plus ça capte notre attention. La vraie conversation ? Disparue. Le paradoxe est frappant. T'as passé plus de temps à regarder des vidéos d'Indiens construire des piscines dans la forêt qu'à prendre des vraies nouvelles de tes amis. On like ce qu'ils veulent nous montrer, sans jamais demander « Comment tu te sens en ce moment ?» On commente leur story, mais on partage rien de sincère. Pourtant, tout reste un choix. Poster moins pour impressionner, plus pour de vrai. Envoyer un message plutôt qu'un emoji, parler pour écouter et pas juste pour exister dans le flux. Remettre de l'humain là où il n'y a que du bruit. Les réseaux sociaux ne sont pas cassés, ils reflètent simplement ce qu'on y met. Si on arrête de jouer les influenceurs du dimanche, ils peuvent redevenir ce qu'ils étaient au départ. Un endroit pour se rapprocher, pour parler et pour sentir un peu moins seul, même derrière nos écrans.
Et c'est bien dit ça, Elias Punaise.
Hein. Ça fait réfléchir.
Et oui, surtout, ça fait réfléchir à notre petite chargée de com qui est juste là.
Je me sens un peu visée, mais c'est ok. Mais par contre, Swan, je ne reconnais plus les murs ni les rues de notre chère Sorbonne.
Mais si, vous êtes toujours sur cours d'honneur que même les moins de 20 ans peuvent connaître.
Alors, accrochez vos lilas sous vos fenêtres.
Ne criez pas famille, ni ne posez nu.
Plus écoutez-nous, nous mettre nu.
Il est 20h06 sur Radio Sorbonne et 18h06 sur Radio Campus Paris.
N'oubliez pas que dans la vie, il y a des hauts.
Il y a des bas.
Et maintenant, place au débat.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Autrefois dédiés au partage de nos souvenirs, les réseaux sociaux ont peu à peu troqué leur dimension intime pour des contenus plus marketing. Alors forcément, on se demande si ces plateformes servent encore à créer du lien, s'ils sont toujours un lieu d'échange entre les individus.
D'autant qu'une étude du GWI pour le Financial Times, menée auprès de 2500 adultes dans plus de 50 pays, montre que leur usage recule pour la première fois depuis leur apparition, et surtout chez les jeunes.
Alors pensez-vous que les réseaux sociaux ont perdu leur dimension sociale ? Mathilde vous a posé la question.
Je pense pas que les réseaux sociaux aient perdu leur dimension sociale parce qu'elle est intrinsèque au fonctionnement d'un réseau social qui est que tout le monde peut avoir un compte gratuitement et l'utiliser pour parler et dire ce qu'il pense. Par contre, il y a un problème de quel social c'est, et notamment le fait que les réseaux sociaux ont tendance à t'enfermer dans un groupe de gens qui pensent comme toi et pas à te confronter à des positions différentes ou opposées à la tienne. Ça encourage une polarisation des idées, des positionnements politiques qui peut un peu en effet remettre en question cet aspect social des réseaux sociaux.
Il y a de plus en plus de place donnée à l'aspect commercial, les marques s'en servent pour faire leur publicité. Je pense qu'il y a moins de place pour l'échange entre amis, entre proches.
Alors si les réseaux sociaux à l'origine étaient faits uniquement pour que les individus interagissent, peut-être, mais peut-être qu'au fond, donc c'est une réponse ambivalente, mais simplement qu'ils ont muté pour faire face justement à un nouveau marché.
Comme sur toutes les questions de nos jours, c'est une question surtout de classe sociale. On va avoir une classe plus prolétaire, banlieusarde, qui va être toujours très sociale, mais qui commence à se politiser de nos jours un peu avec TikTok. Et surtout avec la durée des TikTok, on le voit beaucoup. Les TikTok de plusieurs minutes, une, deux, trois minutes, ça commence même à se politiser dans les classes plus prolétaires.
Il y a 5 ans, quand j'ai quitté les réseaux sociaux, je trouvais que c'était très facile d'avoir un usage qui nous enlevait le côté social des réseaux sociaux. Je trouvais que c'était pas assez direct et que ça devient trop un feed où on parle de nous, donc on n'est plus dans l'échange.
On voit aussi beaucoup le distinguo entre Snapchat et les autres réseaux sociaux. Donc Snapchat, pour moi, c'est vraiment relationnel. On envoie des messages, on rigole, on fait des stories. Et Insta, pour moi, c'est plus le feed personnel. Genre vraiment, on parle de soi. Et TikTok, c'est plus le truc genre le spectre est plus large. On peut parler de tout à tout le monde. Là où du coup, ça sera peut-être moins social, mais plus politisé.
Sur le côté tout le monde peut s'exprimer et devenir copain avec ses vieux copains d'enfance qu'on retrouve sur Facebook, ça c'est une réalité.
Alors qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez toujours les réseaux sociaux pour en attester ?
Pour ma part, oui, je les ai toujours. Après, je trouve qu'effectivement,
Effectivement, ils ont perdu la majorité de leur dimension sociale, puisqu'aujourd'hui, on retrouve absolument de tout sur les réseaux sociaux. On ne sait plus trop quoi penser, où regarder. Enfin, je veux dire, on voit autant des vidéos de chats qui font, je sais pas, qui se cassent la figure. Peu importe où, et en même temps Emmanuel Macron en train de voler les bijoux de la couronne de France, donc c'est vraiment compliqué de trouver, je trouve, une sorte de fil directeur et d'avoir vraiment un fil directeur auquel s'accrocher et savoir de quoi on parle en fait, et de quoi c'est ce qu'on veut voir sur les réseaux sociaux.
Donc d'après toi, l'IA en fait, c'est ce qui a gâché ou que c'était déjà là?
C'est en train de gâcher de plus en plus la dimension sociale des réseaux sociaux, oui.
Et vous diriez que sa dimension sociale, elle a disparu quand à peu près?
Mais juste, vous entendez quoi par dimension sociale? Parce que je pense que ça reste social dans le sens où ça montre des aspects de notre société. Par contre, ça crée plus de liens. Ça permet plus trop de tisser des liens. Il y avait une interviewée qui disait que il y avait des différences entre Snapchat et Instagram. Et c'est clair, Instagram c'est vraiment une vitrine et Snapchat c'est vraiment plus pour tes réseaux à toi. Je pense que les réseaux sont toujours sociaux dans le sens où ils montrent certains aspects de notre société. Mais par contre, c'est vrai que c'est difficile de tisser du lien, quoi.
Mais après, est-ce qu'ils le sont encore? Parce qu'ils montrent certains aspects, mais est-ce que c'est des aspects qui sont neutres ou des aspects qui sont vrais? Est-ce qu'ils sont pas un peu faussés, justement? Justement, on parlait d'influence et tout ça.
Alors moi, je suis plutôt contre, dans le sens où je trouve que les réseaux sociaux, ça nous éloigne pas forcément. Certes, un temps, on se rapprochait beaucoup, on se voyait peut-être un peu plus dehors, mais je trouve qu'on peut toujours encore se voir, et surtout qu'autour des réseaux sociaux, en fait, ils se forment toute une communauté, avec tout ce qu'on appelle les refs, les choses comme ça, qui, en fait, lorsqu'on est tous ensemble, on peut rigoler sur ça, s'envoyer des choses, donc ça renforce des liens, et je trouve ça assez drôle, parce que... Enfin, moi, j'aime bien, parce que je parle beaucoup en ref, etc., et je trouve ça un peu amusant. Je trouve que c'est une autre génération. Après, voilà.
Par rapport à ce que tu dis, Jade, hier soir, j'entendais beaucoup de fous rires à l'étage de mon foyer étudiant. Et le lendemain, je suis allée voir la réception. Je connais la fille qui travaille. Je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé parce que je sais que c'était elle au-dessus de moi. Elle m'a raconté qu'en fait, elle s'envoyait des mèmes de brain rot à la fille à côté d'elle. Elles étaient séparées par un mur, elles étaient dans des chambres complètement différentes, elles rigolaient ensemble en s'envoyant des refs. Et c'était juste, pour moi, c'était vraiment l'expression un peu de la communication qu'on vient d'inventer avec les réseaux, où, je sais pas, il y a une culture qui s'est installée, on a des références.
C'est la culture du vide.
C'est ça. Je sais pas s'il faut en pleurer ou en rire.
Ouais, un peu des deux, hein, je pense. Parce que comme je disais, il n'y a pas de lien, juste pour reprendre ce que disait Jade, pour toi, les liens, ils n'ont pas été atténués ni rien, mais quand même, si on compare à avant, ou en tout cas, quand les réseaux sociaux ont juste commencé, Facebook, tout ça, c'est rien à voir, et on allait beaucoup plus boire des verres, on parlait beaucoup plus. Là, oui, c'est une génération différente, et donc tout est différent. Nous, notre notion des autres et tout ça, les relations, tout a été changé avec les réseaux sociaux.
Après, moi, je le vois pas comme ça dans le sens où je pense que je sors. Enfin, je pense que les gens, en fait, sortent toujours autant, peut-être. Mais par contre, il y aura une interaction en plus le soir ou la journée quand les gens sont au travail. Ils peuvent en fait toujours communiquer via les réseaux sociaux et se retrouver après. Donc, c'est peut-être un plus plutôt qu'un suppression des sorties. En dehors du travail, etc., et peut-être renforcer, justement.
Après, il y a peut-être une promesse qui avait disparu, qui était celle d'Internet à l'origine, de partager les cultures le plus possible, et ça, aujourd'hui, avec les bulles algorithmiques, eh bien, on a abandonné ce rêve de pouvoir communiquer avec tout le monde, on communique qu'avec ceux qui nous ressemblent.
Exactement. Ah, c'est vrai, pour le coup, c'est vraiment une communauté, j'ai l'impression.
Moi, je vais juste dire, par rapport aux rêves, ça peut exclure aussi. Enfin, bon, j'ai la chance d'être entourée par des personnes très bienveillantes qui m'expliquent quand je n'ai pas les rêves parce que je n'ai pas TikTok. Voilà, mais le nombre de fois où je n'ai pas la rêve du truc, franchement, c'est OK.
C'est OK.
C'est exactement
okay.
Ce que j'allais dire.
OK.
Et ça, c'est même une rêve, d'ailleurs. C'est OK.
Ah bon.
Pour revenir sur ce que tu disais, moi, je trouve que ces références peuvent être souvent instrumentalisées. Je trouve par exemple que à part d'un lien social, par exemple, tu connais cette référence, mais elle peut être utilisée pour par exemple embrigader quelqu'un politiquement parlant. Donc, politiquement parlant, je trouve qu'il y a quand même quelque chose un peu aussi d'assez malhonnête dans les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de points positifs, d'accord, ça rapproche les gens, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a quand même pas mal de points négatifs qui permettent à des gens malhonnêtes, on va dire, d'utiliser les réseaux sociaux pour arriver à leur fin avec des objectifs un petit peu problématique.
Moi, je suis pas totalement d'accord parce que il y avait une fille qui disait les réseaux sociaux, c'est ce qu'on en fait. Et tu as parlé d'embrigadement politique. Moi, je considère que j'ai commencé à vraiment me renseigner sur des sujets qui étaient importants pour moi politiquement grâce aux réseaux sociaux. Je dis pas que les réseaux sociaux, c'est le cœur de la politique et il faut pas se baser que sur les réseaux sociaux. N'empêche que il y a un moment où j'ai commencé à plus me renseigner, où je me suis abonnée à des comptes qui parlaient beaucoup de ça et je me suis ouverte à beaucoup plus de sujets dont j'avais pas de connaissances parce que justement mon milieu à moi ne m'ouvrait pas à ces questions-là et j'étais beaucoup avec les mêmes personnes dans ce milieu-là. Donc moi, en tout cas, je pense dans beaucoup de cas aussi, les réseaux sociaux, au mieux de t'enfermer, ça peut aussi t'ouvrir à d'autres choses différentes de ton milieu réel. Et aussi, je voulais revenir sur superficialité. J'aime pas la distinction qu'on fait entre la réalité, on n'est pas superficiel, et sur les réseaux sociaux, on est superficiel. Je trouve que faut voir le 19e siècle ou le 20e siècle, il y avait beaucoup aussi de superficialité dans la vraie vie, et j'aime pas la distinction qu'on fait comme si c'était les réseaux sociaux qui avaient inventé la superficialité. Pour moi, les réseaux sociaux, encore une fois, c'est ce qu'on en fait, et je pense qu'on l'a décalqué d'une nouvelle manière avec les réseaux sociaux, mais j'aime pas l'idée qu'on est forcément totalement transparent et pas du tout superficiel dans la vraie vie. Pour moi, c'est différent, c'est pas les mêmes types de superficialité.
Je suis assez d'accord avec toi par rapport au rapport à la superficialité, mais par rapport aux réseaux sociaux, je trouve que par exemple tout simplement TikTok, c'est clairement l'application qui entraîne des petits clips où on explique une idée très rapidement, ce qui permet vraiment la radicalisation en fait d'une idée sans trop la comprendre. Donc c'est super bien pour s'ouvrir à un sujet, par exemple. Ensuite, après, on va se renseigner dans d'autres médias, mais ça peut aussi simplement enfermer une idée à quelqu'un. Elle va juste se dire d'accord, très bien, j'ai compris l'idée entièrement, alors que elle a juste vu une vidéo vulgarisante de l'idée.
Après, moi, je suis pas sur TikTok, je suis sur Instagram. Et sur Instagram, il y a des vidéos plus longues, genre de 2, 3, 4 minutes, vraiment de décryptage. Donc, je pense aussi que ça dépend de à quels réseaux sociaux tu es plus attaché. Ça peut changer ton rapport au sujet.
Court, quand même, 3, 4 minutes, décrypter quelque chose. Bon.
Non, mais c'est déjà mieux que 10 secondes, Thomas.
Mais je sais. Vous savez qu'Emmanuel Macron s'est déplacé aujourd'hui dans le Nord pour parler de ce thème-là, justement. Et parmi les mesures phares qu'il a proposées, c'est d'interdire en dessous de 15 ans l'accès aux réseaux sociaux.
Oui, alors ça, moi je tiens à rebondir là-dessus que depuis toujours ça a été interdit au moins de 13 ans.
Censé.
C'était censé, voilà. La majorité d'entre nous, on a eu les réseaux sociaux avant cet âge-là parce qu'il était très facile de. Alors maintenant, il était très facile de tricher. Maintenant, je sais qu'il y a du coup, il y a des choses qui ont été mises en place pour empêcher la triche, du genre vérification de carte d'identité et tout ça. Mais il y aura toujours moyen de falsifier une photo ou un truc. Donc c'est une bonne idée, mais je sais pas si ça va vraiment avoir un réel impact. Je sais pas.
Et pour rebondir sur ce que disait Alice, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un peu un des seuls moyens aussi de s'informer gratuitement. On a des tas de par exemple, je pense à Hugo Décrypte, c'est un peu la référence de tout le monde. Mais
il y a les podcasts aussi.
Oui, il y a les podcasts aussi. Mais tu vois, Spotify, etc., souvent ça demande des abonnements, parce que sinon ça te met un podcast au pif. Que les réseaux sociaux, ça reste assez ciblé, assez court et surtout gratuit et assez massif dans le sens où on peut avoir plusieurs vidéos par jour et on peut largement être bien informé avec seulement un abonnement sur Instagram, tu vois.
Eh bien, merci pour toutes ces réponses que vous nous avez apportées. Et après ce débat sans filtre sur nos réseaux, on va écouter une artiste où là, il n'y a aucun débat pour dire que c'est la plus grande des brats. Il s'agit bien évidemment de la seule et l'unique Charlie XCX avec Chains of Love sur Cour d'honneur. I'd rather lay down in thorns, I'd rather drown in a stream, I'd rather light myself on fire. I'd rather wear all these scars, I'd rather watch my skin bleed in the eye of your storm. Come
Il est 18h20 sur Radio Campus et 20h20 sur Radio Sorbonne. Vous êtes sur Cours d'honneur. Vous venez bien d'écouter un nouveau son de la reine de la tech, Charlie XCX. Après son album Brat, qui a révolutionné la pop électro du 21e siècle, on pourrait croire qu'il est difficile pour elle de se renouveler, mais c'est pourtant ce qu'elle ne cesse de faire depuis. Et il n'y a pas de musique qui se renouvelle, mais aussi la philo. Parlons philo contemporaine avec notre invitée du jour, Valérie Bettelheim.
Tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste, mais un grand artiste peut surgir n'importe où.
Il n'y a aucune raison logique pour qu'il y ait moins de talents créateurs au XXe siècle qu'au XVIIe.
Et ce soir, nous accueillons dans notre studio Valérie Bettelheim, enseignante à la Sorbonne en philosophie de l'art et philosophie générale, et qui est également en charge de l'administration technique du site Malzerbe depuis bientôt 5 ans. Et pour mettre en avant cette belle carrière, je laisse le micro à Jade Lavinia pour cette interview.
Bonjour Valérie Bettelheim. Alors, pour commencer, comme on en parlait tout à l'heure dans le débat et comme vous l'évoquiez dans votre conférence sur Heidegger et Plotin, vous abordiez ce qui nous sépare et ce qui nous unit. À l'heure où les réseaux sociaux et le débat public accentuent les divisions, comment ces notions peuvent-elles nous aider à mieux communiquer et comprendre l'autre aujourd'hui ?
Alors j'ai écouté vos interventions avec beaucoup de plaisir et d'attention. Et en fait, ça répondrait beaucoup au débat qui avait eu lieu après cette conférence. Dans la mesure où j'avais évoqué aussi cette question du fait qu'on peut se perdre dans le flux d'informations, dans le flux d'échanges, et finalement en oublier l'importance de la parole. La parole, c'est celle qui est susceptible de nous unir dans l'échange, et c'est ce qui bien souvent se perd concrètement dans la mesure où on échange, comme vous disiez tout à l'heure, un contenu finalement qui nous correspond, et il n'y a pas vraiment d'objection. Or, en philosophie, l'objection, c'est ce qui fait avancer justement le questionnement, la possibilité aussi d'échanger avec les autres. Lorsqu'on échange dans un entre-soi, on va dire, dans une micro-communauté, il n'y a pas beaucoup d'opposition et du coup, ça tourne un peu en rond. Voilà.
Vous parlez d'entre-soi et de manque de retour critique.
C'est ça.
Il y a aussi un autre outil assez récent, ChatGPT ou d'autres formes d'intelligence artificielle, qui manque justement de retour critique. Beaucoup d'étudiants s'en servent d'une part pour leurs devoirs, pour rédiger leur dissertation, etc. D'autres s'en servent pour avoir une sorte de retour à leurs pensées et réflexions, comme une sorte de reflet de miroir. Et vous, dans le contexte justement, en tant qu'enseignante de philosophie, est-ce que vous pensez que les études de philosophie qui servent à écrire, argumenter et formuler sa pensée gardent encore le même sens aujourd'hui ?
Je pense que quand on choisit cette filière, on a un désir, ça part d'une passion, d'un désir personnel de rechercher un sens aux choses. Et donc c'est incompatible avec un contenu préformé et une information donnée. On a cette curiosité naturelle, je pense, et les étudiants que je suis l'ont. Je peux le vérifier tous les jours par leurs questions, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, parce que je suis très réactive également sur les outils tels que le Moodle, mais aussi par mail, voilà, ou dans ma communauté en théâtre. Je réponds aussi à des étudiants. Et il y a un véritable désir de questions et d'aller chercher des réponses par soi-même.
Vous pensez que ceux qui utilisent les outils comme le ChatGPT n'ont pas ce désir-là ?
Peut-être, mais du coup, le contenu, il va pas émaner en fait d'une réflexion personnelle, beaucoup moins, du moins, d'une recherche personnelle.
Vous parliez d'art, vous parliez de votre atelier de théâtre, donc un art. À part entière, et notamment lors de votre conférence sur le tatouage le 24 octobre dernier, vous analysiez le regard porté sur les pratiques artistiques considérées comme marginales ou populaires, ainsi que l'idée du corps comme support. En quoi cette conception peut-elle renouveler notre manière de penser l'expérience artistique, notamment dans votre atelier ?
Alors pour moi, aussi bien dans mes recherches philosophiques qu'au sein de mon atelier ou dans ma pratique des arts visuels, le corps est très important. Et c'est ce que j'ai voulu montrer dans cette intervention, à savoir que le fait que le corps soit utilisé comme un support dans l'art a été, jusqu'à une période très récente, vraiment une entrave à la reconnaissance de cet art, mais on pourrait parler d'autres arts qui utilisent le corps comme support. Et c'est cela, en fait, qui fait obstacle à sa reconnaissance comme art. Du coup, il se classerait parmi les arts minorés, c'est-à-dire qu'on a volontairement infériorisé et mis de côté et pas reconnu comme les arts majeurs, comme la peinture, la sculpture, etc.
Art minoré, en effet, vous parlez souvent de rendre l'invisible visible, tout à fait. Pensez-vous que l'université a un rôle à jouer dans ces arts minorés afin de les valoriser ?
Je pense que oui, parce que l'université a quand même une volonté justement de mettre en valeur toutes nos différences, toutes nos individualités. Et c'est ce à quoi je m'attache aussi bien par la reconnaissance de pensées différentes en philosophie. C'est-à-dire que quand on corrige, par exemple, une copie, on n'attend pas spécialement un discours préformé, un discours formaté. Voilà, moi, je suis vraiment ouverte à toute référence, même celles que je n'ai pas amenées en cours, qui peuvent venir d'ailleurs, hein, d'autres cours, ou bien de lecture personnelle, ou de réflexion personnelle, et elles sont les bienvenues. Aussi, quand je parle de différence, c'est la reconnaissance de nos différences à chacun. Et ça, c'est très important, justement, au sein, par exemple, de ma pratique théâtrale.
Justement, j'ai une question par rapport à cela. Vous avez fondé cet atelier de théâtre Persona en 2021 au sein de la Sorbonne. Et depuis sa création, est-ce que vous avez pu observer une transformation au sein des relations entre les étudiants, enseignants et personnels qui y prennent part ? Est-ce que cet espace artistique a changé la manière dont les gens se rencontrent et se parlent au sein du campus ?
Oui, en partie. Après, voilà, je n'ai pas non plus une ambition démesurée. Je rêverais que ce soit le cas pour tous. Malheureusement, on a grandi déjà. Donc, pour répondre à votre question, oui, ça a évolué. Au début, on était 5 ou 6. Maintenant, on est 16, je crois, si je ne me trompe. Et donc, il y a beaucoup plus d'étudiants, aussi bien qui viennent de mes cours, qui viennent d'autres cours, qui en rencontrent des étudiants en langue, des étudiants en philosophie. Il y a des personnels enseignants et il y a des personnels techniques. On a eu des personnels de bibliothèque également. C'est l'occasion, en fait, d'unifier et d'inclure un petit peu des personnes qui, a priori, ne se rencontreraient pas et n'échangeraient pas.
Et est-ce que ça a un lien avec vos recherches en philosophie ? Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cet atelier ?
L'expérience esthétique. L'expérience esthétique est très importante dans mes recherches, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans l'espace scénique. C'est une sorte de mise à nu dans la mesure où en fait nos rôles sociaux, on parlait tout à l'heure des réseaux sociaux, on y joue des rôles aussi, et dans la vie réelle, je suis assez d'accord avec l'intervention de la personne qui disait que dans la vie réelle c'était finalement la même chose, parce que oui, dans la vie réelle on joue des rôles et on ne fait que ça, et finalement les rôles qu'on a dans la société, même au niveau professionnel, ce sont toujours des rôles. Dans l'espace scénique, ces rôles tombent et nous sommes tous égaux. Et c'est ce à quoi je m'attache vraiment sur scène, c'est-à-dire, par exemple, un étudiant, il va pouvoir parler librement au sein de son rôle avec un personnel technique qui a, je ne sais pas, 30 ans de plus, ou avec un enseignant que habituellement il vous voirait avec beaucoup de respect. Ça n'empêche pas le respect, mais c'est un respect qui n'est pas factice. C'est un respect naturel envers autrui, envers le visage d'autrui et envers la personne, tout simplement. C'est pour ça que je l'ai appelée Persona aussi.
Valérie Bethelheim, donc administrative du centre universitaire du campus Malesherbes. Il y a une question que je me posais en tant qu'étudiante sur ce campus-là. J'ai vu qu'en fait, avant 1999, le bâtiment abritait l'école HEC. Et je me demandais du coup, est-ce qu'on voit la différence et quelle symbolique il y a autour de cet espace qui est de base dédié à l'économie est devenu un lieu en fait, où on étudie la lettre et la philosophie ?
En fait, c'était les lettres et la philosophie sont plutôt enseignées à Clignancourt et ici à la Sorbonne. À Malesherbes, c'est davantage les langues. Ensuite, c'est vrai que c'est au sein de la faculté des lettres qui était avant, les langues étaient enseignées au Grand Palais. Donc il y a eu un déménagement au moment de cette session en fait. Dans les années 2000.
Je voulais revenir vite fait à ce que vous disiez sur les réseaux sociaux. Ça m'a fait penser un peu à l'engouement du développement personnel récemment, au fait qu'on nous incite à devenir la meilleure version de nous-mêmes, et au fait justement que vous êtes spécialiste de Plotin. Vous avez longuement fait des recherches et justement votre thèse portait là-dessus. Et une part justement de ce que dit Plotin parle du perfectionnement de l'âme par dépouillement. Il faudrait retrancher, enlever, polir, épurer, comme la matière brute d'une statue. Est-ce que s'il était là aujourd'hui, Plotin, qu'est-ce qu'il dirait face à ce genre de discours ?
Alors, je ne peux pas parler à sa place, mais c'est vrai que c'était un coup de cœur depuis que j'étais étudiante ici à la Sorbonne, en licence, vu que je suis arrivée en licence 3, par équivalence, ayant fait avant les classes prépa, dans lesquelles je n'étais pas très bien. Donc, j'ai été beaucoup mieux à la Sorbonne. Et c'est là que j'ai eu le coup de cœur pour Plotin, donc j'ai commencé mes recherches à l'époque. Aujourd'hui, il continue de m'accompagner, non seulement dans mes recherches, mais dans ma vie personnelle. Donc, pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'il dirait par rapport à cette quête d'être davantage soi, je pense que nous avons tous la possibilité de faire de notre vie de la sculpter. Et c'est ça qu'il dit, sculpte ta propre statue, c'est-à-dire va vers le meilleur de toi. Et nous avons souvent affaire à des personnes, dès qu'on s'adresse à personnes qui sont, on va dire, dépositeurs d'une certaine autorité, qui vont nous faire un petit peu... Bon, voilà ce que tu devrais être, voilà ce que tu devrais faire, un petit peu le devoir, devoir être, devoir faire, savoir être aussi, on parle beaucoup de tout ça, mais ce n'est pas orienté vers notre propre quête. Donc au début de cette interview, on m'a demandé si la philosophie répondait à une quête personnelle. Or oui, cette quête personnelle, c'est justement trouver en soi la meilleure version de soi. Et ça, je pense que personne de l'extérieur, autant il a de l'expérience, autant il a des connaissances, ni un enseignant, ni un coach, ni rien du tout, ne peut vous apporter cet éclairage. Cet éclairage, c'est en soi qu'il faut le chercher. Comment moi je désire être, comment moi je désire sculpter mon être, aussi bien physique que psychologique, que intellectuel. Et ça, c'est un choix qu'on peut tous faire.
En parlant de Plotin, beaucoup de revendications des étudiants aujourd'hui portent sur le fait que l'université française reste trop centrée sur les auteurs classiques, notamment en philosophie, et sur l'intégrité, sur un projet d'intégrité d'auteurs plus contemporains. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cela ?
Moi, j'essaye d'intégrer au sein de mes cours des références aussi, pas que des auteurs contemporains, mais aussi des références concrètes de tous les jours, parce que je pense que ça fait avancer aussi et ça fait comprendre, ça aide à comprendre des idées peut-être plus complexes d'auteurs classiques, comme vous disiez. Maintenant, je pense qu'on ne peut pas se départir, on ne peut pas se dispenser de références à l'actualité. De toute façon, la philosophie, ce n'est pas un discours sur autrefois, c'est ici et maintenant que se posent certaines questions. Et justement, les réflexions la pensée de Plotin m'aide à apporter aussi un éclairage particulier sur des questions contemporaines auxquelles je suis très attachée.
Et pour revenir à votre rôle d'administratrice au sein du Centre Malzer de Sorbonne Université, c'est quand même un rôle qui est assez concret, qui est assez technique. Et comment est-ce que vous pouvez joindre votre travail, on va dire, de recherche plutôt philosophique, artistique, à quand même une responsabilité qui engage quand même une autre façon d'être ?
Tout à fait, mais encore une fois, pour moi, c'est complémentaire, dans la mesure où la philosophie n'est pas qu'une théorie, c'est aussi une pratique, c'est aussi sur le terrain. Et pratiquer la philosophie, c'est aussi répondre à des enjeux très concrets, comme au sein du travail, par exemple des problèmes humains. J'y suis très souvent confrontée, qu'il s'agisse d'interactions entre les personnels que j'encadre, mais aussi entre les étudiants et les personnels que j'encadre, entre des enseignants, des personnels techniques, des personnels de bibliothèque ou des étudiants. Du coup, c'est vraiment cette interaction humaine qui me passionne et qui répond aussi à des enjeux que moi, je trouve anthropologique et humain, avant tout.
Eh bien, merci. Dernière question, vous n'allez pas y échapper, on la pose à tous nos invités. Que représente la Sorbonne pour vous ?
La Sorbonne, je vais vous répondre que c'est une longue histoire, vu que, comme j'ai dit tout à l'heure, ça remonte aux années où j'avais 20 ans. Et on va dire que c'est... on la quitte, on y revient, j'y suis revenue et je ne le regrette pas.
Une vraie histoire d'amour.
Voilà.
Merci beaucoup Valérie Bettelheim d'être venue nous parler de votre travail philosophique au sein de la Sorbonne. Je rappelle votre ouvrage « L'un antéphénoménal » publié en 2023, ainsi que votre plus récente intervention au congrès 2025 de la Société française d'esthétique, le corps support dans l'art du tatouage, de la minoration à la reconnaissance esthétique. À bientôt.
À bientôt, merci.
Merci à vous les filles, merci à Valérie Bethelheim d'être avec nous ce soir et merci pour cette interview. Et maintenant, artiste indépendant que tout le monde devrait connaître selon nous, son flow est aussi puissant que cool et il mérite d'être dans vos écouteurs 24 heures sur 24. On écoute DNA avec son nouveau titre sorti le mois dernier, Mosh Pit.
Quand je calcule pas ce que je dis, c'est là que je dis vraiment ce que je pense. Je reviendrai dans 3 mois sur le titre, tout sourire avec un air reconnaissant. Je sais que tu m'écoutes seulement quand je suis triste, un peu comme les voix dans ma tête. Je brûlerai le monde en période de crise. Je suis bien mieux seul, je peux enfermer la bête. J'ai retrouvé la raison, mais pas maman Léa. Le monde est moche dehors, maman mia. La vie serait belle avec des j'entends un lien, je suis fatigué déjà, hein, maman mia. J'ai pas besoin de cocktail, j'ai besoin de moche pit. Baby t'es moche quand t'aimes, dis elle devient moche vite. Tu m'as dit la balle est dans ton camp, tu m'as lâché au milieu de Auschwitz. Y'a tellement de gens pourris dans ton clan, tous tes amis jouent les folles vite. Il me reste encore du sucre sous les doigts, hein. Sous les draps, il reste encore de l'ombre sous mes pas. Trophée on soulèvera, alors pute soumets-toi. Je sais que je devrais faire de la variété, hiver comme métal. Souviens-toi de tous les erreurs qu'on commettait. Autre coco, plus beurre de carité. Neuf de qualité, même pas capable de bien allaiter. La vie c'est moche en vrai, baby. J'suis fort en rap, j'suis fort en
strap, j'suis fort en TPT.
J'ai fait le tri sélectif avant de crever dans ma caisse comme Kennedy. M'écouter depuis 10 piges, tu t'en tapes tout ce que j'ai à dire ou quoi. En vrai t'es un peu comme ma mif, d'un côté ils sont bons, de l'autre ils sont trop sournois. Je réponds au fond que si tu parles de bif, je suis plus prêt pour l'amour moi. Dans de platine comme le disque signifiera que je suis le gagnant du tournoi. Tu m'as dit la balle est dans ton camp, tu m'as lâché au milieu de Auschwitz. Y'a tellement de gens pourris dans ton clan, joue les folles vies. Il me reste encore du sky sous les doigts. Il me reste encore des sangs sous les draps. Il reste encore de l'ombre sous mes poids. Trophée on soulèvera, alors pute soumets-toi.
Il est 18h38 sur Radio Campus Paris et 20h38 sur Radio Sorbonne Université. Vous venez d'écouter Mosh Pit de DNA, un petit révolutionnaire qui ne va pas tarder à imposer sa place dans ce monde impitoyable qu'est l'industrie musicale. En parlant d'oser, parlons de projet et cela commence par se former. Romain s'en occupe dans la chronique des brouilles tout de suite sur Cours d'honneur.
C'est une fabrication artisanale. C'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles.
Allez la vedette, top table.
Nos années d'études se terminent bientôt et fin de licence rime avec stage ou alternance. Pour nous éviter la crise d'angoisse, Romain nous porte conseil en termes de recherche professionnelle.
Aujourd'hui dans la chronique des brouilles, on va parler d'un sujet qui fait trembler à foison tous les étudiants en lettres. Trouver un stage. Car oui, dehors c'est chaud et on l'apprend tous au moment où on réalise que passionné de Flaubert n'est pas vraiment une compétence sur LinkedIn. D'abord, soyons honnêtes, la meilleure solution reste le piston. N'hésitez pas à recruter vos parents comme des guerriers dans un RPG. Papa, tu connais pas un PDG ? Évidemment, nous sommes en fac de lettres. Autant demander à un aveugle de retrouver son labrador. Heureusement, il existe une plateforme très secrète réservée à l'élite de la nation, Carrière. Oui, oui, Carrière, l'endroit où Sorbonne Université nous propose des stages passionnants comme assistant communication pour gérer le compte Instagram de la mairie de Sarcelles. Ou encore, relecture et réécriture de manuscrits du 19e siècle dans une salle sans fenêtre. Et grâce à Carrière, vous deviendrez un moine copiste des temps modernes. Pour y accéder, il suffit de vous connecter avec l'ENT, ce qui, je vous rassure, est déjà une épreuve de sélection naturelle. Après, il n'y a pas de secret, il faut forcer, envoyer des CV et des lettres de motivation par centaines. Faites comme Emmanuel Macron, si tout le monde vous dit n'y va pas, ça ne sert à rien, ne fais surtout pas ça, ne dissous pas l'Assemblée. Eh bien faites-le quand même. Bon, avec un peu plus de réussite, on l'espère. Et surtout, n'oubliez jamais de relancer après une semaine l'employeur qui vous aura peut-être malencontreusement ghosté. Enfin, ne stressez pas pour un stage d'un mois. Vous n'allez pas révolutionner l'entreprise. Au mieux, vous ferez des cafés à ce bon vieux Fabrice. Alors soyez curieux et faites-vous des contacts. Et rappelez-vous, jusqu'ici tout va bien, le pire est à venir.
Merci beaucoup, ça me donne envie là, de se réinscrire sur LinkedIn finalement, parce que c'est un peu le réseau social quand on parlait du travail quoi. Bon, on continue, dans cours d'honneur avec un peu de philosophie, du côté de chez Swan, du côté de chez Clara.
Shut up.
Ce qui est inconnu ou mal connu excite l'imagination.
Parce qu'il y a des tas de journalistes qui peuvent venir et qui ne sont pas venus.
Ah bon ? Quand ils disent qu'ils viennent, ils viennent pas.
Clara s'interroge sur qui l'on est à Radio Sorbonne, d'où l'on vient. On va bientôt se croire dans une rubrique philosophique de France Culture. Mais attendez, je vois qu'il y a aussi des sciences au programme.
Allez, sans plus attendre, on laisse la parole à Clara pour nous conter l'inauguration des archives de la parole à la Sorbonne.
Merci Swan. Et oui, je sais pas ce que j'ai essayé, peut-être l'arrivée à grands pas des 11 ans de cours d'honneur qui me rend quelque peu philo-nostalgique. Mais en fait, je me suis rappelée de notre tout premier cours lorsque le vieux Chanel, coucou Thomas, nous avait déclamé.
Tu enregistres en appuyant une deuxième fois sur la touche enregistrée, mais après tu ne fais pas pause, tu fais carré.
Non, il nous avait rappelé que nos voix voyagent dans les airs par transmission d'ondes hertziennes depuis 1896, lorsque l'italien Marconi a 22 ans, ouais, même âge que moi, met au point un système de télégraphie sans fil utilisant ces ondes.
Guglielmo Marconi aveva 27 anni. Fin dal 96 aveva brevettato in Inghilterra la telegrafia senza fil.
Et quid de l'enregistrement des voix? Alors, en 1877, le son est enregistré pour la première fois sur une feuille d'étain enroulée autour d'un cylindre rotatif. Le phonographe est né Made in US. Et quel rapport avec la Sorbonne? J'arrive. Le 3 juin 1911, c'est la naissance officielle des archives de la parole au 4e étage de la Sorbonne.
La parole, c'est à croire.
Qu'est-ce que t'as l'air de dire encore?
Rien.
Alors?
Et son instigateur Ferdinand Bruno inaugure l'institution en présence du ministre de l'Instruction publique, Théodore Stieg, et du recteur de l'Académie de Paris, Louis Liard, rien que ça. Conserver des témoignages de la langue parlée et chantée et constituer ainsi un patrimoine sonore unique au monde est ce qui réunit l'historien de la langue française Ferdinand Bruno et l'industriel Émile Pathé. Oui, Pathé, un des membres de la fratrie à qui l'on doit le plus de ses salles aux fauteuils rouges et matelassés en France, aux Pays-Bas. C'est aussi le plus ancien exploitant de cinéma dans le monde. Et petite précision du peuple, Pathé, c'est le premier groupe au monde de l'industrie du cinéma à instaurer une semaine de congés payés à ses employés. Voilà, plus de 30 ans avant la loi française. C'est un petit point historique. Bon, revenons-en à Émile. C'est lui qui propose au recteur de l'Université de Paris de créer au sein de l'université un musée de la parole. Dans une lettre qu'il lui adresse en février 1911, il offre de financer à ses frais un laboratoire complet avec la machine enregistrée, tous les accessoires, la rémunération du personnel ainsi que la rémunération de toutes les charges sur 10 ans. Ouais, elle en a donné. Hein. Et donc ainsi naît la première collection institutionnelle du phonogramme français, inspiré des phonogrammes archives de Vienne, créé en 1899, première institution du monde spécifiquement dédiée à la conservation de l'enregistrement sonore. Entre 1911 et 1914, Ferdinand Bruno enregistre ainsi la voix de personnalités très illustres comme Apollinaire, le commandant Dreyfus, Émile Durkheim, et des témoignages de langues et dialectes régionaux, avec des petites enquêtes dans les Ardennes, dans le Berry et dans le Limousin. Au total, près de 600 enregistrements qui constituent les incalculables de l'histoire de l'enregistrement sonore. Témoigner de l'état de la langue et de son évolution et légitimer ainsi un combat contre la suprématie de la langue écrite institue l'enregistrement sonore comme archive de la parole. Par ailleurs, le discours d'inauguration de Ferdinand illustre une influence des thèses évolutionnistes et du darwinisme.
Darwin va introduire un nouvel élément primordial, le hasard. Et oui,
Et en effet, l'éminent linguiste de la Sorbonne associe l'enregistrement à une manière d'observer l'infiniment petit et de léguer à nos successeurs un microscope du langage. On est donc ici effectivement en pleine observation biologique et ces métaphores font de la phonétique une étude de la substance sonore, autrement dit une science de l'unité atomique de la langue qu'est le phonème. Matérialiser l'immatérialité est au cœur du projet des archives. Aujourd'hui, cela nous paraît tellement normal de tout enregistrer, mais à l'époque, la prouesse scientifique rend admiratif, voire poétique. Je cite « Observer sur les flancs de l'incision faite dans la cire du cylindre, les vibrations inscrites, en connaître la forme, la direction, la nature et les variétés. C'est le moyen de savoir enfin quel élément se compose, de quel élément se compose cette parole humaine dont l'oreille perçoit la synthèse. » Ferdinand Bruno, 1911. Enfin, l'engouement, ah, j'adore ce mot, ça fait penser à Goulion, enfin bon bref. L'engouement pour ce que Ferdinand nomme bibliothèque vivante vient de ce qu'elle constitue une voie d'accès aux morts. Oui, je sais, c'est plus Halloween, c'est pas ma faute. Si renouer le dialogue avec l'au-delà est ce qui anime le spiritisme, cette science occulte fondée sur la communication avec les âmes et les défunts.
Ce soir-là, l'esprit est venu nous rendre visite.
Peux-tu nous dire si tu es le même esprit que tout à l'heure ?
Conçu aux États-Unis, le spiritisme gagne l'Europe dans ces années, un petit peu avant 1850, et il fait l'objet de grands congrès, notamment à Paris au début des années 1900. Clé de voûte de l'éternité de la voix, le phonogramme est investi d'une mission médiumique. La notion du patrimoine est en l'occurrence un patrimoine sonore qui revêt un aspect nécrophile indéniable avec ce tombeau au sens littéral et musical, qui est non pas le monument lui-même, mais sa sacralisation. Enfin, pour finir, petit exemple, le 24 décembre 1907 se réalise l'initiative d'Alfred Clark, président de la compagnie française du gramophone, qui consiste à enfouir 24 disques d'enregistrement lyrique des plus grandes voix de l'opéra qui sont sous les caves de l'opéra Garnier jusqu'en 2007, date à laquelle ils les ont ouvertes.
Merci beaucoup Clara pour cette super chronique. Tu nous as renvoyé dans le passé, dans les fantômes, Halloween. Non, on s'arrête. Avec Mega BBL, elle signe une œuvre sans frontières qui vit de Kinshasa à Barcelone, de Lagos à Londres, d'études politiques à cours d'honneur en musique. Son nouvel EP casse tout avec image, on l'écoute avec amour. Tout de suite, Masoko na Mambele de Théodora.
Break that thing, 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 break that shake, 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 shake.
Vous êtes toujours sur Cours d'honneur. Il est 18h50 sur Radio Campus Paris et 20h50 sur RSU. Par contre, tu m'avais pas dit mon bébé, mais après avoir écouté la princesse du rap français, on va s'intéresser au petit prince du même domaine avec Alice dans la chronique Sorbonne en personne.
On prend la direction de la Sorbonne en personne.
Auditeur, il est l'heure de se réveiller avec un Sorbonne en personne fracassant.
Pris en main par notre intermittente de l'émission, oui, c'est bien Alice.
Elle revient comme une fleur pour une chronique criminelle.
Bon, désolé pour vous, chers auditeurs, mais aujourd'hui, c'est le retour d'Alice Labarjo à la chronique Sorbonne en personne. En gros, pour les nouveaux, peut-être des amateuristes de sérieux, c'est pas de chance pour vous. Alors voilà, je vous explique. Quand Ellie prend le volant de la chronique, ça parle de culture et d'élégance. Quand c'est Lavinia, ça parle de philo et d'esprit. Et quand c'est Bibi, on est plutôt sur du Nico Salagas ou du Thomas Schnell. J'ai rien contre toi, Thomas, hein, j'ai adoré faire cette chronique sur toi. Voilà, la couleur est annoncée, on peut commencer par une petite charade pour découvrir la personnalité du jour.
Criminel!
Bravo, c'était donc Kalash Criminel, trop dur. Kalash, c'est le nom que son grand frère lui donnait parce qu'il était super fort au jeu d'armes sur PlayStation. Et Criminel, c'est son ajout personnel car c'est un tueur au micro. Et effectivement, on va voir que ça tire à balles réelles.
Je baisse que des mères comme Macron, Cougar!
Bravo, attends, non. Oups, balle perdue pour Manu, ça s'est échappé du fusil, ou plutôt de la calash. On peut dire qu'il l'a bien calaché. Bon, c'est bon, j'arrête. Pour effectuer ses carnages musicaux en toute anonymité, il se cagoule tel un héros masqué échappant aux jaloux et aux rageurs comme Lupin. La vraie raison, c'est surtout que quand il commence à se faire repérer dans le rap, il est étudiant à la Sorbonne et il veut échapper aux foudres de sa mère. Legit. Place à la Sorbonne qu'il a gagnée en décrochant d'ailleurs la meilleure note de tout le 93 en management, c'est-à-dire un 18 après son bac STMG et son BTS MUC. Un parcours remarquable pour une étoile montante du rap qui cache plus d'un visage derrière ses cagoules. Mais qui est-il vraiment ? En vérité, le rappeur est né Amira Kiziamina, le jour des amoureux, le 14 février 1995 à Kinshasa, capitale du Zaïre, actuellement République démocratique du Congo, où il passe les premières années de sa vie. La première guerre du Congo pousse sa famille à quitter le pays. Il trouve refuge en France, dans le quartier populaire de Rougemont, à Sevran, en Seine-Saint-Denis.
Sevran !
Il commence à rapper dans sa jeunesse, d'abord au sein du groupe All 14, avec les rappeurs Dicetil, Kifa, Crimo JS et Zino. Le groupe est plus tard intégré au label 10-12 Records. Kalash Criminel tire ses inspirations de rappeurs américains tels que Lil Scrappy, ou encore de rappeurs français tels que Despo, Ruti, Seth, Gecko, Dossé, Niro, Escobar Mascon et Kaaris. En 2015, il se fait connaître auprès du public hip-hop en étant invité dans l'émission Planet Rap par Kaaris. Il entame ensuite une carrière solo à travers plusieurs freestyles et collaborations. Le 20 juillet 2016, il annonce sa signature sur le label Def Jam France et sort le morceau Arrêt du cœur avec Kaaris.
Arrêt du cœur, ça va chier ! 2, 16, 10, 12, 14, bureau annonce la couleur, ça va chier !
Bon, je vous passe les détails de sa discographie, il faut que j'articule, mais en gros, pour résumer, il sort sa première mixtape RAS en 2016, il devient papa en 2017 entre-temps, puis sort sa deuxième mixtape Oyoki en 2019, j'ai eu mal ce soir. En 2018, il lance son propre label discographique, Sale Sonorité Records, puis sort son premier album solo, La Fosse au Lion. Son deuxième album studio, Sélection Naturelle, sort en 2020 avec des feats conséquents comme Nekfeu, Damso, Jul, Niska, Big Flo Yoli, ainsi que 26 Keus, bon, je connais pas. En 2022, c'est un album commun avec Kaaris, autre rapport avec l'icône de Sevran, qui voit le jour SVR. Enfin, son dernier album en date, Bon Courage, sort en 2024 avec la participation de Jossman, Freeze Corleone, La Fève et le rappeur américain Bobby Schmurda. Au-delà d'être un charbonneur, sa plume insolente bien taillée lui permet aussi de s'engager à travers ses textes, notamment au sujet de son pays natal, le Congo. Il dénonce l'inaction de son gouvernement dans des titres comme Coltan, La Fosse au Lion, Arrêt du cœur ou encore But en or, un duo avec le rappeur Damso, lui aussi congolais. Il y écrit
bien sûr que je porte un tombé, c'est dur que du coltan.
Dénonçant ainsi l'exploitation de son pays pour ses richesses convoitées pour le marché de l'électronique, richesses dont les locaux seraient dépossédés. Le problème, c'est que l'Afrique appartient à tout le monde sauf aux Africains, dénonce-t-il. Mais l'engagement de l'artiste dans cette cause lui attira de nombreuses menaces, forçant ses proches à lui demander de tempérer ses propos pour sa sécurité. Mais il refuse de se taire car ce sont pour lui les combats de sa vie. En plus de sa préoccupation pour le Congo, il se penche aussi sur le projet d'une association pour venir en aide aux albinos du monde, étant lui-même touché par cette anomalie génétique qui a affecté sa vie. Il écrit dans Arrêt du cœur : « Je suis albinos parce que je suis né pour briller », exprimant ainsi l'idée que sa condition peut être un handicap mais aussi une force, une identité qu'il se réapproprierait. Son rêve serait ainsi d'aider d'autres personnes albinos comme lui à réussir, même deux ou trois. Bon, je m'arrête parce que je sens que Thomas est proche d'un arrêt du cœur. En regardant sa montre, je suis forcée d'interrompre ma chronique criminelle. Hop, trois dernières infos exprès. Le temps que Thomas coupe mon micro, Kalash prétend ne jamais enlever sa cagoule chez lui. C'est un grand fan de Liverpool. Il a fait une vidéo avec Studio Daniel qui reste à mon sens son meilleur feat. Pas de débat. Et sur ce merveilleux moment culture, je drop mon mic. Hop.
Merci beaucoup Alice. C'est la fin du sixième épisode de la saison.
Cours d'honneur, épisode 6, saison 5, c'est terminé. Merci de l'avoir suivi.
Merci surtout à notre invitée Valérie Bettelheim, interviewée par Jade et Lavinia.
Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Radio Sorbonne Université existe sur Instagram, sur les plateformes de podcast et dans ta fac aussi.
Merci surtout à toute l'équipe.
Elias, le fameux Elias, toujours.
Ben merci encore à vous, une super émission. Merci Alice pour cette sacrée chronique.
Je t'en prie mon bon Elias.
Merci aussi à Mathilde pour la deuxième.
Y a pas de souci, on a bien rigolé ce soir.
Ouais, très bon débat.
Merci à Lavinia.
Ben merci à vous les filles, merci.
Et à Jade, au passage.
Merci beaucoup. Oui, à très bientôt.
Merci aussi à Romain.
Merci beaucoup à vous, on s'est beaucoup amusé finalement.
Ben bien sûr, toujours ici. Merci aussi à Clara.
Eh bah, avec plaisir, j'espère que vous avez bien voyagé dans le temps. C'était au menu du jour, entre paroles, philo, nostalgie, tout est là pour réchauffer nos cœurs.
Merci à notre intermittente préférée de l'émission, Alice.
Ah oui, c'est moi, merci, je suis trop contente de revenir une fois par mois. C'est un plaisir à chaque fois, voilà.
On est toujours aussi content que tu viennes re-remplir le studio. Et merci aussi à notre invitée, Valérie, qui n'est plus là, mais merci quand même.
Et merci aussi à Thomas, le muet.
Et...
Merci à vous et bravo à Ellie pour sa première.
Mais surtout, oui.
Merci.
J'espère que ce duo vous a plu, mais merci avant tout, avant Ellie, à Radio Campus. Et oui, pour le soutien inconditionnel et pour le partenariat.
On tient à rappeler que les votes pour les élections étudiantes ont débuté ce matin.
Vous avez encore jusqu'à demain 16h pour voter, et ce, une fois en CA et une fois en commission de la formation de la vie universitaire.
On se retrouve dans deux semaines.
Le temps d'augmenter son body count.
Et on ne parle pas de murder.
Mais surtout, d'ici là, évitez de stalker vos ex.
Gambergez plutôt sur pourquoi elle vous a ghosté.
En révisant vos classiques philo.
Parce que ça, c'est sartrement plus beau à voir. Soyez vous-même.
Soyez fous-même.
Restez curieux.
Restez avec nous.
On vous aime. Bisous. Ciao.
Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République, parce qu'on sait jamais. Hein.
Ah, ça va tout changer, parce qu'en plus, j'habite à Paris. J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement, et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit.
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.